Alors, que devient la justice, là? Parce que finalement, le juge, il devient sécuritaire et il ne juge plus. Si on pousse plus loin le bouchon.
Non, mais le juge, il juge. Sauf que là, par exemple, en matière criminelle, la cour d'assises, et je crois que c'est très bien, aujourd'hui, elle doit motiver ses arrêts, ce qu'elle ne faisait pas. Moi, quand j'étais présent en cour d'assises, on motivait pas les arrêts. Et maintenant, elle doit même motiver la peine. Donc, ce qui est une sacrée... C'est difficile, mais c'est une sacrée innovation. Mais dans les questions qui sont posées aux jurés, parce que vous savez qu'on pose des questions aux jurés, un tel est-il coupable d'avoir, etc. Bon, on répond par oui ou pas non, par non, on vote, etc. Mais on doit maintenant poser la question, est-ce qu'on reverra la situation à l'issue de la peine? Et les jurés doivent répondre à ça. Est-ce que dans 15 ans, on reverra la situation? Et de très bonne foi, on le comprend très bien. Qu'est-ce qu'on risque à dire? Bah, dans 15 ans, on verra la situation. Sauf que, on s'est rendu compte qu'effectivement, la tendance générale, elle est vers plus de sévérité. C'est-à-dire que lorsqu'on a, ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'article 64 et à l'article 122, où on pensait effectivement que en réduisant, en disant que le discernement altéré entraînait une peine moindre, et ben au final, on se rend compte que non. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque quelqu'un a une personnalité altérée, pour la cour et les jurés, enfin d'autres ont peut-être un autre avis que moi là-dessus, ça n'a pas grande influence. Ça n'a pas grande influence. Parce que l'altération du discernement, elle est considérée comme un danger. Voilà. Une responsabilité altérée est considérée comme un danger. Donc je crois que là, on a un vrai problème. Enfin, je ne sais pas comment le résoudre.
Donc on décide à l'issue du procès ce qui se passera 15 ans plus tard. On posera la question encore.
On décide qu'on posera la question à cette commission, un an avant la fin de la peine.
C'est ça.
On posera la question, est-ce qu'il faut continuer?
Ça a été un grand débat de savoir s'il fallait le non-lieu ou la responsabilité du sujet qui a commis l'acte. Un philosophe comme Althusser, il s'est battu pour dire qu'il aurait préféré être jugé.
Oui, il aurait voulu. Oui.
Donc, pour nous, psychiatres,
on un autre enfermement.
Des sujets, altérés ou pas altérés, mais un sujet, c'est toujours là. Et le moment de l'acte, il a toute son importance. Mais effectivement, comment l'entendre, c'est pas au juge qui peut effectivement entendre ce moment-là. Lacan, il a écrit un texte remarquable, sur la criminologie. En pensant que la responsabilité, la culpabilité, que dans la responsabilité, il y a réponse, culpabilité, il y a coupé. Bon, ça, c'est des termes, si vous voulez. Bon, ça, ça se développe éventuellement quand on écoute un patient, mais je vous assure que quand on est psychiatre des hôpitaux, qu'on est appelé, parce que moi, j'étais travaillé à l'île juive, il y avait un service médico-légal, légaux. Donc, quand ils sortaient, ils venaient dans le service de leur secteur. Essayez de repérer un peu la logique de l'acte. Pas toujours évident, pas toujours possible, c'est vrai. Mais comment arriver effectivement à prévoir, à 15 ans près, où va en être le sujet? C'est vrai qu'un sujet, un serial killer, il y a une espèce de répétition dans le réel de l'acte qui fera qu'il pourra tuer et retuer. Alors, enfermé à vie, c'est extrêmement difficile, ces questions. C'est extrêmement difficile.
Ah oui, bien sûr.
Je crois que vous avez été confronté à...
Ça, c'est sûr.
Ça, c'est clair, il n'y a pas de doute.
Bien sûr. Non, je suis pas sûr que ce soit impossible. Je dis, c'est des choix de société. Est-ce qu'on veut vivre des sociétés risque ou pas? Est-ce qu'on veut vivre des sociétés démocratiques ou pas? Alors, la démocratie, elle est à risque.
Alors, attendez, il y a d'autres questions. Elisabeth.
Je suis un ancien magistrat aussi. Je veux juste rajouter quelque chose. C'est que lorsqu'on parle de prendre la responsabilité, ça implique qu'il y a une décision. Et la décision, ce qui est important, une décision, non, elle est plus complète qu'éthique, elle est éthique, bien sûr, mais elle est aussi juridique, elle est aussi sociale, ah, bah, elle englobe tout. Donc c'est justement ça qui est important, c'est de savoir comment on arrive à prendre cette décision. Et comment l'institution à laquelle on appartient permet qu'on la prenne. Et moi, je me suis posé cette question parce que j'ai eu à organiser un énorme procès. Avec 65 accusés, 40 victimes, enfin, des choses extrêmement lourdes sur le plan matériel. Et ma seule préoccupation, c'était de me dire comment je vais permettre aux juges de juger cette affaire et comment je vais permettre aux accusés et aux victimes de dire tout ce qu'ils ont à dire. Et c'est là-dessus aussi que porte notre responsabilité. Alors, là, c'est la responsabilité de l'organisation, de l'institution, mais tout ça se mélange. Et c'est parce qu'il faut que tout se rencontre, que tout s'emboîte, que tous ces niveaux de responsabilité différents arrivent à se coordonner entre eux pour que la décision la plus, alors pas dire la meilleure, mais la plus adaptée sans doute, et en tout cas en pleine connaissance de cause, puisqu'elle entraîne la responsabilité des uns et des autres, elle puisse être prise dans les meilleures conditions. Et la responsabilité,
attends,
elle est
à attends, attends, niveau. Attends, non, parce que, monsieur.
Juste, pour moi, la question, est-ce qu'elle juge? C'est vraiment une question. Est-ce que le juge juge un crime indépendamment de la dangerosité ou est-ce qu'il ne peut juger un crime tout en tenant compte de la dangerosité? Enfin, il y a quelque chose comme ça qu'on voudrait à la fois distinguer et à la fois, j'ai l'impression, c'est inhérent même. Donc, et là, ça implique la responsabilité du juge. C'est-à-dire, est-ce que le juge est responsable dans sa... en verdict, seulement de juger le crime sans, d'ailleurs j'ai du mal même à le concevoir, sans la dangerosité, ou est-ce que le jugement qui les lance implique également, en plus du crime, implique la dangerosité? Est-ce qu'on pourrait les désintriquer?
Je crois pas. Je pense que, en matière criminelle, mais en matière délictuelle, c'est pareil. On juge quelqu'un qui a fait quelque chose. C'est-à-dire qu'on juge quelqu'un qui est accusé de quelque chose. Et on juge une personnalité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en matière criminelle, devant la cour d'assises, il y a toujours des expertises. L'expertise est obligatoire. Expertise psychologique, expertise psychiatrique, mais aussi examen de personnalité. Voilà. Et en général, par exemple, le gamin dont je vous parlais tout à l'heure, que j'avais revu, il y avait son dossier d'assistance éducative dans la procédure criminelle. C'est-à-dire qu'il y avait tout. Donc on juge... c'est pour ça que je dis que c'est très intéressant la cour d'assises avec les jurés, parce que cette question... Elle est beaucoup plus posée par les jurés que par nous. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on la question, lorsque par exemple on est tangent, c'est-à-dire que le groupe qui juge, c'est-à-dire les jurés et les magistrats, dans le fond, on n'est pas très sûr que la preuve n'a pas été rapportée suffisamment. Enfin, pour certains, pas suffisamment, etc. Dans la discussion, il va y avoir des gens qui vont dire, bah oui, mais peut-être pas, mais peut-être pas, peut-être qu'il ne l'a pas commis, mais quand même, c'est un mec dangereux. C'est des choses qu'on entend, ça. Et donc, effectivement, il faut se défaire de ça pour dire, non, on juge un individu pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. Mais l'affaire de la... Je pense... Alors aujourd'hui, on va voir, et c'est assez intéressant d'ailleurs, puisque le Conseil constitutionnel a décidé d'obliger les cours d'assises à motiver les peines maintenant. Lorsque j'étais président de cour d'assises, on ne motivait pas les décisions. C'est-à-dire qu'on répondait oui, non, etc., mais on ne motivait pas les décisions. Alors ensuite, on a dit qu'il fallait motiver les décisions. D'ailleurs, ça se discute, hein, parce que c'est très, très compliqué, finalement. Mais maintenant, on dit qu'il faut motiver la peine. Et motiver la peine, effectivement, on risque d'avoir des motifs qui porteront beaucoup sur la dangerosité. Pourquoi on met telle peine? Pourquoi on va mettre le maximum? Parce qu'on a un mec ou une femme qui sont manifestement dangereux. Et ce n'est pas une réponse aux faits qui ont été commis, mais aux faits qui risquent de se commettre. Encore une fois, ça vient de sortir, donc je ne sais même pas s'il y en a des arrêts motivés. Je crois que maintenant, il doit y en avoir depuis 15 jours, motivés sur les peines. Mais il y en aura, et ça, c'est vrai que ça va être, point de vue universitaire, ça va être passionnant. Comment on motive une peine ?
Alexandre.
Moi aussi, je suis ancien magistrat. J'ai une question à poser. Est-ce que la responsabilité n'implique pas qu'on dispose des éléments d'appréciation pour prendre la décision ? Or, dans l'expérience du magistrat, est-ce que à chaque fois, vous aviez les éléments, tous les éléments dont vous aviez besoin pour prendre, comme on dit, en toute connaissance de cause, la décision ? Je pense peut-être que je m'adresse aussi un peu à tout le monde, c'est que est-ce que les médecins qui tout à coup doivent prendre une décision sur un traitement, est-ce que vous avez ou non tous les éléments suffisamment pour pouvoir prendre une décision ? Or, on promet qu'il faut bien prendre une décision, mais est-ce que du coup la responsabilité du professionnel n'est pas encore en quelque sorte atténuée parce qu'il ne disposait pas de tous les éléments ?
Moi, c'est... Effectivement, j'aurais tendance à dire, mais c'est très orgueilleux, dire si j'ai pris des décisions, c'est que j'avais de quoi les prendre. J'ai pas eu beaucoup de.
Non, là, je pose la question. Je prends un exemple, il vient l'esprit sur la façon de juger dans ces cas-là. Prenons au tribunal correctionnel, la preuve n'est pas totalement rapportée que l'individu a commis le délit qui lui est reproché. Mais, en poursuivant l'enquête, on va peut-être y arriver. Donc il peut y avoir deux façons de juger. Soit, on peut dire, le procureur n'a pas prouvé que l'intéressé est coupable, je relaxe. Ou alors on peut dire, on va ordonner un supplément d'enquête, d'information, etc., et on va continuer. Et je crois que c'est deux conceptions sur le rôle du juge. Est-ce que le juge, il est là uniquement pour dire j'écoute à gauche, j'écoute à droite, hop, je décide. Ou bien est-ce qu'il fait partie du processus
de... Moi, je pense que ce que tu dis là, je n'ai pas eu cette impression-là qu'il manquait des choses dans les... Mais c'est aussi une vision, je suis encore trop. Dans le truc.
C'est surtout vrai en matière sociale. En matière de... Moi, j'ai jugé beaucoup de licenciements, énormément de licenciements. Alors là, je peux vous dire assez souvent, je ne savais pas. Il y avait des raisons dans l'un sens, dans l'autre, etc. Comment savoir ce qui s'est passé on ne sait pas trop.
Non, mais ça, j'étais aussi aux chambres sociales où, effectivement, on ordonnait quand même des compléments d'enquête, des choses comme ça. Mais c'est pas la même histoire. Moi, je dirais, il y a quelque chose qui est plus dangereux en matière criminelle ou en matière pénale. C'est on n'a pas la preuve où on est 50-50, on sait. Mais dans le dossier, il apparaît que l'individu qui est peut-être innocent est quand même un mec dangereux. Parce que tout son comportement le montre, parce que on n'a pas prouvé qu'il avait tué celui-là, mais qu'il avait quand même flanqué des sacrés roustons ailleurs, etc. Et on va condamner. Et ça c'est effectivement un travail avec les jurés de leur dire justement, on ne condamne pas quelqu'un où il est coupable ou il n'y est pas. S'il n'est pas coupable de ça, voilà. Mais c'est un risque, effectivement. C'est un risque. Mais en tout cas, pour la question sur laquelle vous étiez, on juge quelqu'un qui a fait quelque chose. Mais on ne juge pas quelqu'un sans le quelque chose. C'est-à-dire, c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire, on ne juge pas quelqu'un pour une ambiance. Voilà. Mais ça peut arriver. Je veux dire, c'est un petit peu ce qui est... moi, je ne l'ai pas suivi de très près... Mais j'ai entendu ou j'ai lu les réquisitions dans le procès de Tarnac récemment. Oui. Et ben, le procureur de la République, qui me semblait quelqu'un d'une assez grande honnêteté, il a bien été obligé de dire, il me semble, hein, sous réserve de ce que j'ai lu dans la presse, on ne va pas les juger pour l'ambiance.
Oui, mais par exemple, l'affaire Dreyfus.
Oui.
Si on parle d'ambiance.
Oui.
C'est une question politique.
Bah oui.
Bah oui, mais c'est précisément ça.
Voilà.
C'est-à-dire, on jugeait quelqu'un, mais
dans
en plus,
c'est
un tribunal militaire. Ça
oui, oui.
C'est encore une autre histoire.
Sacré.
Oui, oui, bien sûr. Mais ça, aujourd'hui, je veux dire, il est clair que Dreyfus n'a pas été jugé pour ce qu'il était, oui. Mais pour l'ambiance d'une période.
Si, il a été jugé pour ce qu'il était.
Oui, parce qu'il avait fait.
Parce qu'il était juif. Il a été jugé précisément.
Oui, pas pour ce qu'il avait fait.
C'est
ça.
D'accord.
Il y a une question là-bas. Madame, il y a une question.
Avec la question de la rétention de sûreté, le condamné, il n'est jamais sûr de sortir de prison. Tandis que quand il avait autrefois fini sa peine, il savait que dans telle année, il serait libre. Et ça change quand même son vécu.
Ah ben oui. Oui, c'est ce que. Ah ben c'est sûr que c'est quelque chose de très fondamental dans l'évolution du droit et du droit pénal. C'est-à-dire cette incertitude. C'est vrai, on parle tout à l'heure de la relégation, hein, mais c'est vrai que. Voilà, ceci étant, même les gens.
C'est une dimension sadique. Enfin, je veux dire que c'est une torture supplémentaire, je veux dire. De ne pas savoir si un jour ou l'autre, on retrouvera sa liberté.
Ah ben oui, mais c'est comme à l'hôpital, je dirais. C'est comme à l'hôpital. Bah, j'imagine qu'il y a des gens qui restent très 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 longtemps à l'hôpital. Hein, pour des raisons sécuritaires. Enfin, j'en sais rien, je suis pas médecin. Mais non, mais vous avez raison. Je dis, c'est ceci étant, ce qui change, ce changement, on peut dire, voilà, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Après tout, quelqu'un, parce que c'est quand même pour des crimes assez costauds, hein, c'est des gens qui sont incarcérés une quinzaine d'années, donc moi j'ai repris tout mon petit carnet, c'est vrai qu'il y a des choses assez abominables. Donc qu'on dise on va réexaminer avant la fin de la peine, ça peut s'entendre.
Et sur
Sur quels critères
alors
toute la question est là. C'est pour ça que vous avez une commission, dont je rappelais tout à l'heure la composition. Hein, un magistrat, un préfet, un psy, un avocat, un représentant d'associations de victimes qui sont extrêmement puissantes aujourd'hui. Voilà. Alors les critères, ils sont... voilà. Regardez pourquoi ce...
Je pensais juste que cette part énigmatique, cette part du réel, cette part qu'on peut qualifier de dangerosité... Et que, j'ai envie de dire, quelles que soient les bonnes intentions qui entourent l'enfer, de toute façon, on ne parviendra jamais.
C'est ça, ça reste. Oui, c'est ça. Oui, ça va rester.
C'est cette part que...
C'est ce qui va, si vous voulez, je pense que c'est l'obligation de motiver les peines maintenant, c'est quelque chose qui. Moi, je ne suis plus dans la boutique, donc je n'aurais pas à le faire. Je trouve ça. Passionnant, mais extrêmement difficile. Comment motiver une peine sans engager l'avenir dans 15 ans ? C'est quand même une sacrée histoire. Voilà, donc...
Vous avez une question ?
Oui, est-ce que les conditions quotidiennes pour la rétention supplémentaire sont un tout petit peu différentes sur certains aspects ou sont strictement identiques ?
C'est trop tôt pour le dire, je crois, parce qu'on n'a pas vraiment d'exemple là-dessus. Je pense que, si vous voulez, les prisons françaises, ça c'est encore, c'est pas un autre sujet dans le fond, mais les prisons françaises, on sait que c'est lamentable, qu'on est condamné X fois pour ça. Ceci étant, que les maisons centrales, les lieux de détention où sont détenus les gens qui sont condamnés à de lourdes peines, sont sans commune mesure avec les maisons d'arrêt. Je ne dirais pas que c'est confortable, mais je veux dire, ce sont des lieux où les gens, on sait qu'ils vont y vivre 15 ans ou 20 ans, c'est d'autres conditions de vie. Donc je pense qu'effectivement, les centres de rétention, ça va être aussi, ça va être plutôt ces mêmes conditions de vie qui sont plutôt plus favorables. Si vous êtes en maison d'arrêt, on est quatre dans une cellule, dans les centres de détention, il y a une personne par cellule, souvent les portes sont ouvertes, enfin, il y a des activités possibles. Mais il n'empêche que la porte est fermée. Hein, j'ai lu, vous avez sans doute lu récemment ce monsieur Gardon, je crois, dont on vient de se rendre compte qu'il était depuis 40 ans en tôle et qu'on l'avait un peu oublié. Alors c'est un peu excessif de dire ça, mais on l'avait un peu oublié. Ce qui est terrible, c'est que je lisais, je crois que c'est un psy ou son avocat, il disait ben, déjà son premier problème, c'est qu'il ne sait plus ouvrir une porte.
Oui, c'était très joli, ça.
Mais c'est joli.
C'est ouvrir une porte.
Il n'a pas besoin d'ouvrir de porte. Donc, voilà. Donc, il y a quand même autour de ça. Mais l'incarcération, peut-être l'hospitalisation, c'est une autre histoire.
Le fond de ma question, en effet, c'est le traitement par la société de la folie. Est-ce qu'il y a une substitution? Est-ce qu'on se dirige vers une substitution, j'allais dire, viable, donc avec des conditions aussi qui sont... Pas celle qu'on connaît pour les maisons d'arrêt
surchargées. Moi, je suis allé justement parler de Villejuif tout à l'heure. J'étais auditeur de justice en 73. Je suis allé à Villejuif. J'avais discuté avec un garçon qui avait foutu sa grand-mère par la fenêtre. Il racontait ça avec beaucoup d'intérêt. J'en garde pas un souvenir éperdu des conditions de vie à Villejuif. Ça me semblait du même tonneau que... Mais j'ai pas mal fréquenté les hôpitaux psychiatriques dans les lieux où je travaillais. Mais bon.
Oui, c'est pas terrible.
Donc, elles ont été mises en place, les maisons de rétention.
Les centres de rétention, ça vient de sortir, là. Je sais même pas s'il y a... Je sais même pas si ça a été encore... Puisque la réforme, elle est qu'en 2008... C'est ça. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui y sont...
Ça fonctionne, oui.
Ouais.
Ou pas ?
Les gens en rétention, ils sont en détention dans des quartiers spéciaux.
Ils sont dans des quartiers spéciaux, des centres de détention. Il n'y a pas de...
Il ne doit pas y en avoir beaucoup, parce que...
Ah non, il y en a très peu.
2008, il faut avoir le temps...
15 ans. Voilà, il faut 15 ans.
Il faut 15 ans après 2008.
Oui, c'est ça.
Il y aura des aménagements dans les quartiers.
Il n'y a qu'une lettre qui change. Hein.
Mais... Non, parce que sur cette question de la nature de la sanction, il y a eu un grand débat au Conseil constitutionnel, et comme ça a été dans la presse, on peut le raconter, puisque c'est sorti publiquement dans la presse, au sein du Conseil constitutionnel, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord là-dessus. Pour savoir si la rétention était une sanction ou pas une sanction, c'est pour ce qu'on appelle une mesure de sûreté, et donc de savoir si ça pouvait être rétroactif, etc. Et finalement, comme ils n'avaient pas réussi à se mettre d'accord, ils ont pris une décision qui était contradictoire en elle-même. C'est-à-dire que, c'est pas une sanction, donc c'est possible, c'est constitutionnel. Mais quand même, comme c'est un peu une peine, c'est pas attractif. On ne peut le faire que pour les gens qui, à partir de maintenant, sont condamnés. Donc, tout ça montre bien.
Mais on ne sait pas encore, ça n'a pas encore été déterminé, qui en sera justement responsable. Quelle est l'administration qui sera responsable? Est-ce que ce sera la pénitentiaire? Est-ce que ce sera la préfectorale? Et c'est des choses qui sont... c'est autrement que symbolique, ça. Mais bon, on ne le sait pas encore. Il serait logique que ce ne soit plus la justice. Mais bon...
Non, mais c'est comme l'expert, lui aussi, il a une responsabilité...
Énorme.
Ah ben oui. C'est pour ça quand il dit qu'il ne viendra pas et que...
il faut qu'il prenne une douche.
Les douches suffiront, je trouve que c'est un peu léger. Enfin, j'exagère, mais... Non, mais je pense que les experts ont... Pour la cour d'assises, moi, j'ai toujours trouvé qu'ils avaient un rôle extrêmement important. Ils sont très mal menés. Très, très mal menés. Notamment un avocat dont on parle beaucoup, que je vois tourner autour de... Il faut être costaud, c'est vrai, pour être expert devant la cour d'assises, mais c'est, oui, bien sûr, c'est très important. Et ce sera d'autant plus important, à mon sens, et la question va se poser aux experts, comment on fait pour ça, parce que ça va être très déterminant dans la peine. Qui est cet individu qu'on juge? On sait ce qu'il a fait. Qui il est? On le sait un peu. Qui il peut devenir? On ne le sait pas beaucoup. Et évidemment, on va se retourner vers les experts, dire, attendez, si vous, vous ne pouvez pas nous le dire, qui va nous le dire ? Le devenir d'un individu condamné, c'est... Et c'est là-dessus que je dirais qu'il faut s'accrocher, à mon avis, en ce moment. Dire, le devenir, on ne sait pas. On peut dire un peu, mais on ne peut pas dire tout. Parce qu'on ne sait pas dire tout. Et que la récidive, elle est toujours possible. Et heureusement.
Enfin, est-ce que dans ce procédé-là, mais vraiment ça peut paraître banal, est-ce qu'au moins on pose la question à l'intéressé sur son idée qu'il peut se faire de son devenir ? Donc de sa dangerosité.
S'il va récidiver ou pas.
Oui, parce que c'est devant cette commission, le débat est contradictoire. Donc la personne est entendue. Elle est entendue, elle peut avoir un avocat, donc elle peut dire ça. Mais c'est évident que si vous voulez, alors cette commission, je la connais un peu, mais je n'y ai pas participé, mais une juridiction, c'est pareil d'une certaine manière. C'est vrai que c'est que la prédiction de l'avenir de quelqu'un, c'est quand même quelque chose qu'un juriste ne sait pas très bien faire. Alors les juges, personne ne sait. Vous êtes payé pour ça.
Pas la prédiction, on n'a pas de hibou.
C'est pas
la boule, hein.
Bien sûr, je plaisantais. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que beaucoup de présidents de cours d'assises sont d'anciens juges des enfants. Vraiment, il y a une espèce de filière, là, pas toujours, mais une espèce de filière.
Et pourquoi, votre avis ?
Parce qu'effectivement, je pense que, bon, d'abord parce que moi je le disais de manière un peu provocatrice, les juges des enfants sont des gens qui ont envie d'aller là où ça fait mal, dès le départ. C'est une profession où ça fait mal, et la cour d'assises, c'est aussi un endroit où ça fait mal. Alors, c'est une manière de un petit peu romantique de voir les choses. En tout cas, ce sont des fonctions qui obligent à travailler sur la personnalité des gens, et notamment sur leur devenir. Donc, effectivement, mais pour autant, comment on fait, quand même ? Comment on fait avec... Pourquoi les juges des enfants ? Alors, moi, je reviens très en arrière sur mes fonctions de juge des enfants. Je vous donne la parole juste après. Mais parce que ça me semble... Lorsque j'étais juge des enfants dans les années 70, je ne sais pas s'il y en a vous qui étiez dans ce secteur à ce moment-là, dans les années 70, avant de prendre une décision, il y avait une expertise qu'on appelait une investigation orientation éducative. Il y avait des réunions de synthèse. Et le juge participait aux réunions de synthèse. Et je me souviens qu'à un moment donné, moi j'ai dit, quand même, c'est un peu... Comme j'étais très, très dans le truc, 68 ans à tout, j'ai dit quand même, qu'on aille aux réunions de synthèse. Et puis ils m'ont convaincu que si, il fallait que j'y aille. Et puis j'en ai été convaincu. Oui. Ce qui fait qu'effectivement, on prenait la décision entre nous. Et puis après, éventuellement, si la famille avait à dire quelque chose, elle pouvait, mais... voilà. Donc, voilà, il y a cette passion de connaître les choses, mais qui est quelquefois un peu excessive. Mais oui, connaître comment on fait pour connaître la personnalité des gens et la possibilité de se refaire une...
Attends, il y a une dame qui a demandé la parole, là-bas.
Oui. Est-ce que ça n'est pas une manière de mettre en cause, de dire quelque chose de l'évaluation qui pourrait être faite de à quoi sert la prison et du coup de réinterroger ce qu'on y fait pour les gens qui y sont ?
Ah ben, c'est ça, c'est vaste sujet, mais c'est sûr, si vous voulez, que la question... Mais ça vaut plus qu'un débat... entier, si vous voulez, la question de la prison, de la pertinence de la prison, c'est un problème considérable.
Poser la question de la dangerosité.
Ah ben oui. Ça ça induit effectivement quelque chose au niveau dans le fond. Si on laisse quelqu'un en rétention parce qu'il est dangereux, ça veut dire qu'on va pas chercher vraiment à faire évoluer les choses. Le problème, c'est de savoir est-ce que la prison est un lieu d'évolution possible. Alors, si vous prenez l'exemple de ce Philippe Maurice, si vous vous souvenez de ce garçon qui était condamné à mort, qui a été sauvé par les élections de 81. Bon, il est aujourd'hui docteur en...
Il a écrit quelque chose sur le Gévaudan, je
crois. C'est ça, il est docteur en histoire médiévale, et c'est un type qui est passionnant lui-même, enfin, comme bonhomme. Mais c'est un type qui devait passer à la guillotine et qui aujourd'hui... Qui était, voilà. Et il y a pas mal, il y a pas mal de gens qui passent en tôle et qui...
Qui en profitent.
Mais c'est quand même pas la majorité.
On entend aussi qu'il y a pas mal de gens qui deviennent terroristes plus facilement. Est-ce que c'est qu'il y a une évolution
C'est une évolution.
Non, c'est pas une provocation. Justement, hors médias, c'est pour...
Non, mais c'est quelque chose qu'on... même sans parler de terrorisme, quand on dit la prison, c'est l'école du crime, sans parler de terrorisme, si ce film, comment ça fait, assez formidable. Voilà, Le Prophète, c'est vrai ça. Mais le contraire est vrai aussi. Moi, j'ai plus connu les centres, ce qu'on appelait les foyers de la protection judiciaire de la jeunesse, qui étaient pas des lieux d'enfermement, mais où étaient ensemble tous les mômes qui avaient quand même de sacrées difficultés avec le droit pénal. Bon. Moi, j'ai toujours dit, et je crois sans trop me tromper, parce que lorsque j'étais juge à Bourges, j'étais le seul juge, donc je connaissais forcément toute la population, toute la cohorte. Et je disais, il n'y en a que 10% qui reviennent. La plupart ne reviennent pas, parce que le traitement, il était quand même... Je veux dire, on a quand même réussi un certain nombre de choses en matière de traitement des délinquants. Mais pas tout, et puis on réussira pas tout. J'allais dire, heureusement, c'est provocateur, mais je veux dire, bien sûr qu'on pourra pas tout. N'empêche que... Mais on peut sacrément améliorer les choses. Les centres pour les mineurs, ça s'est sacrément amélioré à une époque. Je sais pas où c'en est maintenant, mais enfin... Moi, je me souviens, on visitait... Comme je vous parlais de vie juive, j'étais pas éperdu, mais il y avait des centres de la protection judiciaire de la jeunesse, il y avait des cages. Bon, bah, c'est des choses qui ont complètement changé.
Vas-y, tu veux dire quelque chose encore, Françoise ? Puis après, Irène. Alors, vas-y, Irène.
Moi, je voulais juste faire une remarque concernant le fait que, même en psychiatrie, on peut faire des erreurs par rapport à la question du jugement dont vous parliez, l'expertise, parce que là j'ai un exemple récent d'un patient qui était placé en SPDRE, c'est-à-dire maintenant on dit SPDRE. Bon, et il se trouve que ce patient après n'était plus hospitalisé, mais la mesure,
c'est quoi,
ça correspond au
c'est une demande
c'est HO, hospitalisation
d'office. Ah oui, d'office, d'accord. Quelle formulation.
Il se trouve que il est sorti de l'hôpital, mais la mesure a été conservée. Et récemment, la psychiatre qui s'occupait de lui à l'hôpital, parce qu'il allait beaucoup mieux, a eu l'idée de faire lever cette mesure. Eh bien, avant que la mesure soit levée, il se trouve que c'était des petits signes, mais manifestement, ce cadre qui était posé pour ce patient semblerait lui convenir.
Lui allait bien.
Lui tenait quelque chose. Et en fait, il a commencé à sentir qu'il ne supportait plus la foule. Enfin, des petites choses comme ça. Et bon, donc il savait qu'il allait être convoqué par le juge.
Et il était au courant de cette mesure qu'on devait enlever.
La psychiatre en avait parlé. Enfin, ils en avaient discuté ensemble. Mais cela dit, il y avait d'autres psychiatres qui s'occupaient, lui, à l'extérieur, d'autres unités, et qui n'avaient pas forcément été consultés pour cette levée de la mesure. Et le juge, en fait, n'a pas levé la mesure, a décidé que non. Et en fait, on pense que finalement, il a eu raison. Parce que Vous voyez, c'est pour ça que c'est délicat.
Bien sûr, mais c'est une affaire qui s'est passée à Marseille.
Non voilà. Non, pas du tout.
Bien sûr que les erreurs d'appréciation, il y en a, et que au niveau psychiatrique, au niveau comportemental, bien sûr.
Ce que je voulais dire, on ne peut pas présumer. C'est parce que finalement il y a eu ces signes de la part du patient qu'on peut dire après coup. Mais on ne peut pas. C'est-à-dire que la psychiatre qui a estimé, c'est vrai qu'il allait mieux le patient.
Oui, oui.
C'est vrai qu'il allait mieux. Mais est-ce que finalement cette mesure, elle sert de cadre pour ce patient ? Elle sert de cadre pour ce patient.
C'est ce cadre.
Jusqu'à quand ? On ne peut pas savoir. Oui. Mais voilà, en tout cas.
Oui, mais ça fait partie, je veux dire, c'est les risques du métier, enfin, d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'on est la difficulté dans laquelle on est lorsqu'on travaille dans votre secteur ou dans le mien ou dans le secteur éducatif, et ben c'est qu'on fait des métiers à risque, pas pour nous, on fait des métiers à risque pour la société, bien sûr. Mais je veux dire, il faut encore une fois, tout à l'heure ce que je disais était provocateur, mais je vous l'assure, on me l'a dit, et je pense. Moi, je me souviens de l'Espagne franquiste encore. C'est vrai qu'il y avait un déploiement de police qui faisait que dès qu'on levait un peu l'oreille, moi j'étais interpellé en Espagne. Et ça allait très vite. Hein. Et c'était certainement une société plus sécure de ce côté-là.
Ah oui, de ce côté.
Mais du côté des.
Lorsqu'un
ministre de la justice vous dit, moi je suis pas le ministre de la justice, je suis le ministre des victimes.
Ça c'est curieux.
Bah, ça veut dire quelque chose quand même.
Ouais.
Ça veut dire que c'est ça qu'on met en avant. Or les victimes doivent bien sûr être respectées. Et le boulot des juges et notamment des cours d'assises, c'est de faire un gros travail là-dessus. Sur le respect des victimes, sur la place qu'elles doivent avoir, etc.
C'est pas de prendre parti pour l'heure.
Non, ça c'est sûr, mais je veux dire qu'il faut arriver à un équilibre là. Mais qu'un ministre de la justice dise je suis ministre des victimes me semble poser un problème éthique, politique bien sûr, mais éthique aussi.
Absolument. Voilà. Il y a une question,
oui,
José.
Pour revenir à ce que tu dis, moi j'ai des exemples dont on va parler en réunion. D'un cas où effectivement le juge a statué une libération pour un monsieur qui avait assassiné sa mère. Et donc là, dans le bas de combat au milieu hospitalier, il a une double prise en charge, intra-hospitalière et en CMP. Ils sont tous comme ça.
Ils ont peur.
Voilà.
Ouais.
Donc,
tu vois, ouais.
Et ça va dans le sens de ce que vous dites. Du ministre qui dit je suis du côté des victimes, donc tout le monde se retrouve à coller à ce.
Oui, mais c'est encore une fois, elle dit pas je suis du côté des victimes, elle dit je suis le ministre des victimes.
Oui, oui.
C'est encore différent, parce que bon, on peut dire qu'on est
un homme.
Mais c'est vrai qu'on a ce risque-là que la prise en charge, et prenons au niveau des juges des enfants, une prise en charge éducative. Les gamins, ils sont ce qu'ils sont, ils peuvent très bien nous rouler dans la farine, hein.
Bien sûr.
Et donc on va relâcher et puis un moment. Mais je vous dis ça, à mon expérience de juge des enfants, c'est multirécidiviste ou c'est réitérant plutôt, ça représente 10%. C'est pas énorme.
C'est peu.
Mais c'est pas énorme. Je veux dire, c'est sans doute ça qu'il faut qu'on arrive à tenir comme discours au niveau social et politique. Oui, effectivement, ça n'est pas sans danger le traitement de la délinquance de manière démocratique. Ça n'est pas sans danger de la folie. Mais bon.
Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez revu cet homme qui aux assises que vous aviez suivi enfant, quand il était enfant?
On s'est raté quelque chose. Il me semble que je lui ai dit, ça a pas très bien réussi. Il a souri en me disant, bah oui, il y a quand même quelque chose.
Bon, voilà.
C'était quand même une rencontre.
Ah oui, c'est sûr. C'est pour ça que je pense qu'il a pas demandé à ce que je sois déporté, parce que. On n'avait pas de mauvaise relation.
Tu voulais dire quelque chose, Elisabeth ?
C'était son juge.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est mon juge.
Ah oui, son juge.
Vous étiez mon juge.
Vous
n'êtes
pas mon juge.
Oui. Vous entendez ça ?
Ah oui. Il s'approprie.
Ah oui, c'est tellement important.
Ah oui.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est la responsabilité du sujet.
Oui. Et quel sujet ?
Pour ça, il faut écouter. Et ça prend du temps.
Ah ouais.
Et chacun son rôle.
Mais
parce que garde des sceaux, c'est quand même une institution. Garde des sceaux, c'est pas ministre de la justice.
Oui, et alors ?
Je crois qu'il faut des fonctions différentes.
Oui, ben le tous les pays n'ont pas de ministre de la justice. Il y a des conseils supérieurs de la magistrature, je ne sais pas où en Europe, mais qui assurent effectivement le. Bon, il n'y a pas qu'en France qu'un ministre de la justice, mais quand même, effectivement. Et c'est vrai que là. Alors, ça c'est encore un autre débat. C'est la justice dans les institutions républicaines et le. Et je sais pas, je disais tout à l'heure, l'irresponsabilité du juge, tant mieux, d'une certaine manière, et en plus, il doit être indépendant. Alors, c'est encore plus emmerdant, non seulement il est libre, mais. Voilà. Mais oui, alors, c'est. Bien sûr.
Si je peux juste. Parce que j'ai envie de répondre à votre question. Vous parliez tout à l'heure des accusés et de l'avenir, et qu'on envisageait ou non pour les accusés. Parce que. Non, mais je. Parce que moi, j'avais une habitude, quand je présidais la cour d'assises, vers la fin, toujours je disais aux accusés, écoutez, je vais vous poser une question, vous pouvez répondre ou ne pas répondre, mais la question est la suivante, comment vous voyez votre avenir ? Et c'était toujours très intéressant.
Quand il venait de se prendre ses 20 ans.
Non, parce que même par exemple. Non, ça ne va pas, c'est avant. Non, et même pour l'anecdote, c'est même comme ça que j'ai réalisé un mariage à l'audience.
Comment ?
C'est même comme ça que j'ai réalisé pratiquement un mariage à l'audience.
Entre qui et qui ?
Eh bien, là, parce que c'était trois accusés, et un des accusés a dit. C'était un petit hold-up dans un cinéma, c'était pas trop méchant, ils avaient volé 6500 francs à la caisse, ou 400 coups à Angers. Non mais je veux dire, c'était pas une affaire tragique, c'était pas tragique. C'était pas dans le tragique. Et un des accusés répond, ça dépend, parce qu'il y a une jeune fille qui est dans la salle, parce que ça dépend ce que c'est bien, parce, mais en tout cas, si elle me posait la question, pour moi, c'est oui. Donc j'ai fait venir la jeune femme.
Ah oui, carrément.
Le plus neutre, le plus sec. Et je lui ai dit, madame, vous avez entendu ce que vient de dire l'accusé, vous n'êtes pas obligé d'ajouter quelque chose, mais si vous voulez dire quelque chose, allez-y. Moi aussi, c'est oui. Résultat, mise à l'épreuve. Vous verrez le jour même.
Alexandre, je n'ose pas y croire. Je n'ose pas y croire.
Il a
vu
la rédemption par l'amour.
Je connais l'oiseau.
Ah si, moi j'y crois. Le connaissant bien, je crois aussi. Bon, d'autres histoires ? D'autres questions, d'autres histoires ? Non mais Alexandre en a beaucoup, beaucoup, mais...
On fait des divorces aussi. Alors moi, je...
Alors, des divorces.
Puisqu'on est dans les petites histoires, j'en ai une qui était... Alors, c'était une évasion. C'était des costumes. Évasion par hélicoptère, mais c'était des gens qui avaient... c'était vraiment des costumes.
Non,
ils avaient été condamnés, et je comprends qu'ils s'évadaient, parce qu'ils avaient dû prendre une perpète, ils s'évadent, bon, on les retrouve On les retrouve, je me souviens d'un pays, on les retrouve dans le village de la Truffe. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ils étaient réfugiés dans un camp de vacances du village de la Truffe. Et ça, ça n'a aucun sens. Bon. Sauf que il y en avait un, qui était le patron de l'affaire, hein. Il était là avec sa maîtresse. Il se fait gauler avec sa maîtresse, ça apparaît dans la procédure. Et au moment où on va le juger, son avocat vient me voir, il dit, écoutez, je suis embêté de dire ça, mais il y a la femme de monsieur machin qui est dans la salle d'audience. Alors je lui dis, bon, écoutez, pour moi, dans la procédure, ça n'a aucune importance, sa maîtresse n'a aucune importance, qu'elle m'excuse, on ne va pas en parler. Donc effectivement, j'ai fait toute une audience d'évasion qui a duré une semaine, parce qu'il y avait du monde, il y avait des victimes, etc., sans parler de la manière dont avait été interpellé Monsieur X dans le lit de sa maîtresse. Et je voyais dans la salle l'épouse, et je me disais, toi mon bonhomme. Et alors, c'est là qu'on est un peu... parce que je veux dire, bon, on s'est bien entendu avec cet accusé, donc ça... Mais je voyais le cas, je lui disais, toi mon bonhomme, si tu fais le con, on va savoir comment... J'ai une carte à jouer. Bon, ça, c'est... Mais voilà, donc tu vois, il y a aussi ce genre de choses. Mais j'ai évité un divorce.
Bon, écoutez, je voudrais peut-être conclure alors. Je vous propose d'aller boire un verre dans la petite pièce derrière pour ceux qui sont disponibles. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour ce délicieux moment. Il y avait finalement un bon peu près normal. Ouais. Et ils ont l'air ravis.
C'est bien, il y avait plus de monde. Ils avaient l'air contents.
Très bien. Très bien.